France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT in the house. Halia,
Radio Rosana
Piparis.
Produce get in la radio.
So far, change the radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Est-ce qu'il est là pour signer des deals ou pour asseoir son influence, pour prendre sa part du gâteau, pour apaiser les tensions avec la Chine, mais tout à la fois, mon capitaine? Est-ce qu'on va parler de terres rares, de microprocesseurs, de soja, de militaires, mais également, Trump est en Asie, il va rencontrer Xi Jinping, il y a beaucoup à en dire. Que nous dit le retour de la messe en latin au Vatican, autorisé par Léon XIV, quand la révolution conservatrice en cours atteint les murs pas très hauts du Vatican? C'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est en Haïti, nous y restons toute la semaine. Haïti livré aux gangs. Qu'est-ce que ça veut dire quand toute une population est réduite à s'entasser dans un tout petit bout de territoire?
Ma maison a brûlé. C'est le seul endroit qui me reste. Le danger est partout. Il n'y a nulle part où aller.
Découvrir le premier volet de cette série signée Jean-Mathieu Albertini autour de 18h40. Sous les radars, Alice Moreno a trouvé Recep Tayyip Erdogan qui fait la chasse au cyrillique. Vous comprendrez ce que ça veut dire. Et puis la BO du monde de Cyril Sauvageau, c'est non au concert sous les pyramides au Caire qui inquiète notamment les archéologues. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. Trump qui, comme à son habitude, parle dans les avions et que le bruit des réacteurs devant, le bruit des réacteurs derrière. J'ai de très bonnes relations, dit-il, avec le président Xi Jinping. Nous allons nous rencontrer, ce sera une très bonne rencontre. Je suis presque sûr que ce sera une très bonne rencontre. Peut-être même que ce sera une rencontre formidable. Fermez les guillemets, c'est Trump qui parle. Bonsoir Valérie Niquet.
Bonsoir.
Votre terrain de compétence et de recherche pour la Fondation pour la Recherche Stratégique, c'est toute cette Asie du Sud-Est et au-delà où Donald Trump se trouve donc toute cette semaine. Votre dernier livre, je le cite, ce texto géopolitique s'appelle L'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde. On ira évidemment assez vite en Chine parce qu'un accord visiblement, en tout cas un consensus a été trouvé. Vous allez nous aider à comprendre jusqu'à quel point effectivement tout ça est particulièrement important. La Chine, c'est le point d'orgue de cette visite de Donald Trump qui a commencé à Kuala Lumpur. Il est aujourd'hui au Japon. Je voudrais qu'on s'y arrête un tout petit peu quand même. On a vu ces images parce qu'elles ont fait le tour du monde de Trump qui arrive en dansant à Kuala Lumpur. Il a l'air d'être tout à fait de bonne humeur et tout à fait en forme. Mais au fond, la question que je me posais, Valérie Niquet, c'est dans ce voyage, qui fait la danse du ventre à qui, en fait? Est-ce que c'est les pays d'Asie pour éviter une salve de droits de douane supplémentaires? Mais est-ce que c'est Trump aussi qui a un jeu d'influence à jouer avec la Chine? Qui fait la danse du ventre à qui?
Vous l'avez dit, les deux. Donc, des pays d'Asie qui essayent de séduire Trump, ou en tout cas d'éviter qu'il s'éloigne encore plus. Et puis Trump qui a envie d'avoir un deal avec Xi Jinping et peut-être même avec Kim Jong-un, parce qu'à un moment, on parlait d'une possible rencontre.
Absolument, il en parle toujours d'ailleurs.
Nord-coréen, dans la péninsule coréenne. Donc les deux, ou Trump, et ça dépend des pays. Sur l'Asie du Sud-Est et Kuala Lumpur, c'est très intéressant parce que lorsqu'il a été élu pour la première fois, Trump a complètement snobé l'Asie du Sud-Est. La Chine en a profité. Il faut toujours rappeler que la première puissance commerciale, premier partenaire avec tous ces pays-là, tous les pays d'Asie d'ailleurs, c'est la Chine. Et que par ailleurs, la Chine a beaucoup investi pour réexporter vers les États-Unis, ce qui explique d'ailleurs les droits de douane absolument colossaux que Trump a imposé à ces pays. Donc aujourd'hui, il vient réparer les choses et il a besoin de partenaires, notamment, vous avez mentionné les terres rares.
Bien sûr.
La Malaisie fait partie de ces pays qui ont des réserves et surtout où il y a une possibilité de transformation avec des investissements américains. Voilà, un intérêt des intérêts mutuels bien compris.
Est-ce qu'on est en train de, en tout cas c'est ce qu'il cherche à faire, de trouver une chaîne de production alternative à la Chine, par exemple? Est-ce qu'on en est là? Notamment, vous parlez de la Malaisie, mais notamment en Thaïlande, parce qu'on a vu aussi cette espèce de petit numéro de mise en scène de la paix entre le Cambodge et la Thaïlande. On sait bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais la photo, il la voulait, donc il l'a eue. Est-ce que là aussi, on se dit, il est en train d'essayer de trouver une route parallèle? Est-ce que c'est possible, ça, ou pas?
Oui, c'est possible. Et ça fait d'ailleurs plus d'une décennie qu'on s'inquiète sur les terres rares. Simplement, le prix étant tellement bas quand on les fait transformer en Chine, qui a réussi à avoir le monopole, non pas de l'exploitation, mais de la transformation, à cause de lois très souples, notamment en matière environnementale et sociale, on peut essayer de trouver d'autres possibilités, et notamment en Asie du Sud-Est, dans des pays comme la Malaisie ou la Thaïlande, avec des capitaux américains, c'est tout à fait possible.
On voit bien le numéro d'équilibriste de chacun, on voit bien celui de Trump qui essaye effectivement de rattraper ce qu'il a perdu lors de son premier mandat, si je puis dire, et puis il y a quand même le numéro d'équilibriste de ces pays-là qui n'ont pas envie d'être broyés dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis, parce que pour, bah alors, vraiment physiquement au milieu, qui ne veulent pas non plus perdre le débouché commercial américain, qui ne veulent pas non plus perdre effectivement le partenaire privilégié qui est le voisin chinois. On parle de 600 millions d'habitants. Elle est compliquée cette équation-là quand même pour tous ces pays-là.
Oui, effectivement, mais c'est pas nouveau. L'ASEAN et d'autres pays d'Asie ont toujours, les pays d'Asie du Sud-Est, donc ont toujours essayé, un, de proclamer leur centralité, ce qui leur permet de jouer un rôle important dans la région, au moins symboliquement, pas uniquement, mais en grande partie. Et puis ensuite, d'avoir toujours un équilibre entre deux puissances, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, tenir les deux bouts en quelque sorte, mais surtout ne pas se retrouver seul face à la Chine. Et c'est pour ça que, quelles que soient les ambiguïtés, les discours des uns et des autres, eh bien, la présence américaine reste importante.
Le moment, je le disais, le point d'orgue, ce sera effectivement la rencontre avec Xi Jinping, ce sera jeudi en Corée du Sud, et on verra peut-être d'une certaine façon si ce qui s'est passé là, en fait, a servi à quelque chose, et comment pour cette rencontre à venir. Visiblement, ça se passe pas si mal en coulisses. En tout cas, il y a des choses qui ont déjà été dites et qui ont été scellées. Et je me demandais, Valérie Niquet, en lisant cet après-midi, si au fond, ils n'étaient pas très, très communs, ces deux hommes, en fait, Xi Jinping et Donald Trump, pas très différents, au fond. Seul compte les intérêts commerciaux, seul compte le deal, donc éviter l'inflation du côté des États-Unis, maintenir la croissance en Chine. Enfin, il y a une rivalité là-dedans. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'ils parlent exactement le même langage, ces deux-là?
C'est difficile de comparer les deux systèmes étant tellement différents. Je ne suis pas certaine qu'on connaisse véritablement la personnalité de Xi Jinping, notamment. Ce qui est certain, c'est que les deux, en tout cas Xi Jinping, est d'un très grand réalisme. C'est-à-dire qu'il regarde ce qui l'intéresse et il peut changer de position en fonction des intérêts de la Chine. Donc, à ce titre-là, effectivement, tous les deals sont possibles et ont sans doute déjà eu lieu, parce que je pense que s'il y avait trop de points d'interrogation, on n'aurait pas eu d'annonce de cette rencontre. Donc, les choses vont avancer. La Chine en a besoin aussi. On a beaucoup dit que la Chine avait emporté le combat entre
Mais j'allais vous demander, qui a gagné ce combat-là, en fait? Qui est le premier à avoir plié, finalement, entre la Chine et les États-Unis?
Ben déjà, on verra quel sera le résultat de ce qui a été obtenu. Pour la Chine a les armes du long terme, comme on dit, et le fait que ça ne soit pas une démocratie, donc on puisse imposer, y compris en termes d'aide aux entreprises, par exemple, qui lui permettent de jouer la montre beaucoup plus que d'autres pays. Ceci dit, la Chine a aussi besoin des marchés extérieurs, notamment du marché américain, le coup d'arrêt à certains transferts de technologies, c'est ennuyeux également pour la croissance chinoise. Donc, la Chine va être obligée de céder quelque chose, peut-être le soja, peut-être la reprise des importations.
Moi, c'est ce que j'ai compris, parce que le deal de départ, c'était la Chine qui dit non mais très bien, nous, le produit de notre terre rare, on va le garder pour nous. Donc, Trump, qui est en colère et qui dit bah, très bien, vous aurez des douanes à 100%. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la Chine mettait un peu d'eau dans son vin sur les terres rares, mais qu'en échange de quoi, le soja allait reprendre sa route habituelle. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, non?
Oui, mais il y a aussi le fait que la Chine se met quand même la planète entière à dos, puisque l'arme des terres rares, elle utilisait non seulement contre Trump, ce que certains auraient pu comprendre en raison des tensions commerciales, mais elle l'utilise aussi. Ça a des conséquences pour l'Union européenne, par exemple, et pour d'autres pays en Asie que la Chine aimerait bien regagner, entre guillemets. Donc, on verra quel est le deal atteint par les deux. Les deux ont sans doute envie de projeter aussi cette image de les deux grands qui gèrent la planète. Ça, c'est quelque chose qui est commun, si on parlait de ça.
Est-ce qu'il y a un côté Yalta, quasiment, en Corée du Sud, en fait, où les deux, en tout cas, se partagent cette partie du monde, au nom, on le disait tout à l'heure, d'intérêts bien compris, en
Alors,
fait
Alors, on n'est plus à la même période, et je ne pense pas qu'ils arrivent à qu'ils puissent... Je ne pense pas qu'ils puissent se partager, parce que, justement, aucun pays n'est prêt à se laisser absorber, entre guillemets. Et il ne faut pas oublier le Japon, qui va quand même être une étape importante
il y est, là,
pour
d'ailleurs,
Donald Trump, pour rencontrer l'empereur. C'est sans doute un petit cadeau qu'on lui fait pour l'encourager à venir, mais surtout la première ministre qui, elle, a des positions qui sont... Alors là, quand vous parlez de gens qui se rapprochent, il est certain que la première ministre actuelle a un discours et des positions questions qui peuvent tout à fait plaire à Donald Trump.
Et peut-être même que l'élection de Donald Trump a donné des ailes à certains électeurs japonais. On y reviendra dans Un jour dans le monde très longuement, mais on dit que c'est un peu la réincarnation de Shinzo Abe, que ce premier ministre, cette première ministre japonaise, mais elle aussi, vis-à-vis de Trump, doit jouer quand même sur deux tableaux. Elle a une vraie victoire à gagner. Trump qui lui dit il va falloir faire des dépenses militaires, sinon ça ne va pas être possible. Et le Japon qui a très très peur de Taïwan quand même de l'autre côté, si d'aventure on laissait tomber Taïwan. Donc le jeu est très 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 déséquilibré là aussi.
Le Japon reste très dépendant des États-Unis pour sa sécurité. Développer ses capacités militaires autonomes, ce sera difficile, quelles que soient ses ambitions à elle, pour des tas de raisons. Et puis par ailleurs, le gros dossier pour le Japon aujourd'hui, c'est quand même les relations commerciales avec les États-Unis, puisqu'ils sont aussi soumis à des droits de douane très élevés, que Trump attend des investissements japonais massifs, notamment en Alaska, qui sont d'une rentabilité limitée, semble-t-il. Et les entreprises japonaises, évidemment, disent d'accord, mais c'est le gouvernement japonais qui devra nous aider pour le faire. Donc il y a tout un débat sur les enjeux économiques au Japon qui sont très importants.
Est-ce que Valérie Niquet, l'éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, c'est Taïwan, qui peut faire les frais aussi de cette visite en Asie de Donald Trump? Est-ce qu'au milieu des deals, il y a quelque chose qui dit on vous laisse faire avec Taïwan, chers Chinois, et on continue à faire du commerce?
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup pensé que Trump se désintéressait de l'Asie. Or, là, il va voir tout le monde, y compris Xi Jinping. Ce serait quand même une aventure très risquée de la part des États-Unis, de la Chine notamment, de se lancer dans une action militaire directe face à Taïwan. Mais pour Taïwan, c'est sûr que le défi, c'est de continuer à garder l'attention des États-Unis et d'un président qui varie beaucoup.
Parce que son sujet, sur les précédents présidents, le sujet Taïwan, président américain, le sujet Taïwan, c'était une histoire de démocratie, en fait. La démocratie, c'est pas un sujet pour Donald Trump. De toute façon, c'est pas ça qui est intéressant. Donc, à la fin, si pour un deal commercial, il faut laisser tomber Taïwan, vous croyez pas que c'est par là que va pencher la balance ?
Oui, mais du côté de Trump, comme du côté d'ailleurs de Xi Jinping, les choses changent si vite. Et je ne suis pas sûre que Trump... Non, parce qu'il n'y a pas uniquement la démocratie pour les États-Unis. Il y a quand même des intérêts stratégiques absolument vitaux. Taïwan ferme la chaîne deal face à la Chine. En termes de prestige également pour la puissance militaire des États-Unis, ce serait difficile de laisser Pékin agir à Taïwan sans répondre, sans agir. En tout cas, le point d'interrogation est là et je pense que les Chinois sont obligés d'en tenir compte.
Mais en termes de microprocesseurs, par exemple, plus ça va, plus les Américains ou pas peuvent se passer des microprocesseurs de Taïwan ou
non,
pas.
Ils
on a l'impression
pas.
Qu'ils ont arrangé leur plan B.
Ils essayent de persuader TSMC, l'entreprise taïwanaise qui produit les plus pointus, de se déplacer aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait, mais avant même Biden, avant même Donald Trump sous Biden, simplement les États-Unis ont un problème qu'on connaît bien, qui est le manque de main-d'œuvre notamment, et de main-d'œuvre hyper qualifiée. Donc tout ça prend du temps et pour le moment, Taïwan garde une longueur d'avance en la matière.
Juste une dernière chose, Valérie Niquet. Donc la rencontre avec Xi Jinping, c'est jeudi en Corée du Sud. Il y a toujours planant et Trump entretient ce suspense-là. Est-ce que oui ou non, il rencontre Kim Jong-un? Sur une échelle de 1 à 10, vous la voyez, vous, cette rencontre? Et puis surtout, pardon, mais à quoi elle sert, en fait, de fait?
Oui, c'est surtout...
C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup.
C'est ça la question. Et si c'est pour, de la part de Trump, dire que finalement, oui, c'est un fait, la Corée du Nord est une puissance nucléaire, ça risque de le mettre à mal avec d'autres pays de la région. Encore une fois, je pense par exemple au Japon ou même à la Corée du Sud.
Allez, à suivre. En tout cas, on suit ça jeudi de très très près. Valérie Niquet, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, ce soir, c'est Le Monde à l'endroit et c'est vous, Louise Baudet.
Ite missa est, la messe en latin, de retour au Vatican, marqueur idéologique bien dans l'air du temps.
Allez, c'est juste après ça. Let this world get a little too Falis, Just Two Girls, c'est dans la playlist de France Inter avant un passage à Paris à la fin du mois de novembre. Tiens, allez, le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
La messe est dite, et pas dans n'importe quelle langue, Louise. Vous nous expliquez pourquoi le retour de la messe en latin au Vatican dit beaucoup de l'air du temps.
Alors il y a le son, le latin donc, et l'image, celle d'un prêtre tourné vers l'est, ad orientem, autrement dit vers Dieu, office célébré dos à l'assemblée avec chant grégorien en sang et rite très codifié. C'était samedi dernier, entre les murs de la basilique Saint-Pierre au Vatican, une première depuis 3 ans, et c'est un ultra-conservateur qui a célébré l'office, le cardinal américain Raymond Burke, président du Coetus Internationalis Summorum Pontificum, un pèlerinage qui depuis plus de 10 ans rassemble des fidèles de différents pays autour de la liturgie latine traditionnelle. Ce cardinal a obtenu gain de cause en audience privée auprès de son compatriote, le pape Léon XIV.
Alors le cardinal Burke, il faut rappeler quelques fondamentaux, opposant farouche au précédent pape François qui justement avait restreint la messe en latin.
Oui, alors petit coup d'œil dans le rétroviseur hein, pour bien comprendre. La messe en latin, dite tridentine, elle est la règle de jusqu'au Concile Vatican II dans les années 60. Grand bond en avant dans la modernisation de l'Église. Le latin disparaît alors au profit de la langue du pays où est célébré l'office. Mais cette liturgie traditionnelle, eh bien, elle devient le porte-étendard des ultra-conservateurs qui refusent le Concile et la modernité qu'il représente. Benoît XVI, le prédécesseur de François, rétablit cette liturgie. Mais François la restreint de nouveau fin 2021 et il provoque la colère des traditionalistes qui s'estiment privés de leur liberté de culte.
Et donc le geste de Léon XIV est très symbolique.
Et oui, parce que la messe en latin est devenue ou redevenue un marqueur idéologique partout dans le monde et notamment aux États-Unis où un évêque de Caroline du Nord qui a restreint drastiquement la messe en latin s'est vu traiter récemment de catholique protestant gauque et de franciscain en Birkenstock. Le même procès a été instruit contre François, rappelez-vous, ce pape gauchiste, pro-migrant, pro-climat, pro-LGBT ou dénoncé comme tel. Son successeur Léon XIV se voit comme un réconciliateur, à la fois héritier de François et tendant la main aux traditionnalistes. Le mois dernier, ceux-là ont été scandalisés par les drapeaux arc-en-ciel déployés en la basilique Saint-Pierre lors d'un pèlerinage LGBT organisé dans le cadre du jubilé. Le pape les autorise aujourd'hui à y célébrer la messe en latin, tout en regrettant à haute voix que la liturgie soit devenue un outil politique en ces temps de polarisation qui traversent aussi l'Église catholique.
Donc tenir l'Église par tous les bouts, c'est mission impossible, non ?
Mais compliqué en tout cas. Un temps, la guerre culturelle et le backlash anti-progressiste semblent investir tous les terrains, y compris le grand écran d'ailleurs. Un docu-fiction remporte en ce moment un joli succès en salle, Sacré-Cœur, qui met en scène des reconstitutions d'apparitions du Christ et des témoignages de croyants. Film cofinancé et largement promu par les médias du groupe Bolloré. Il est en train de devenir un objet politique à part entière, aux antipodes d'un autre film sorti il y a bientôt un an, Conclave, thriller oscarisé qui raconte, alors attention spoiler, hein, vous, je ne sais pas si vous avez
si,
vu.
Si, je l'ai vu. Ouais.
Vous l'avez vu, mais ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et voudraient le voir, ben vous éteignez le poste quelques secondes et vous revenez après. Thriller donc qui raconte la mort d'un pape et l'élection de son successeur, en l'occurrence un cardinal intersexe, né avec des caractéristiques physiologiques masculines et féminines, finale bah, très woke, hein, on peut le dire. Pas sûr que les tenants de la messe en latin aient apprécié.
Allez, merci beaucoup Louise Baudet et Le Monde à l'endroit, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Le reportage d'Un jour dans le monde toute la semaine est en Haïti, dans ce pays ravagé par les attaques de gangs, par une violence hors de contrôle, l'instabilité politique, est-ce qu'on en parle vraiment ? Rien ne tient dans ce petit bout d'île, pas même la force internationale présente sur place. 16 000 personnes sont mortes depuis 2022, des fusillades à l'ancienne si j'ose dire, mais aussi des drones de plus en plus utilisés par les gangs qui contrôlent tout. Et les habitants qui ne demandent qu'à vivre tranquillement, et bien presque 1,5 million d'entre eux ont fui leur village, ils s'entassent là où ils peuvent, vous allez vite le comprendre en allant dans la capitale, Port-au-Prince. Et le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui raconte.
Le van défoncé traverse un quartier autrefois prospère, à deux pas du Champ de Mars, l'ancien cœur du pouvoir haïtien. Déserté, marqué par les combats incessants, il a aujourd'hui des allures apocalyptiques. C'est le territoire des gangs, unis dans une coalition depuis 2 ans. Mind, un criminel local, méprise l'intervention internationale dirigée par les Kenyans depuis 2023.
Ils sont venus gagner un peu d'argent, pas gérer les questions sécuritaires.
La nouvelle intervention autorisée par l'ONU fin septembre avec des effectifs 5 fois plus importants ne l'inquiète pas plus. Des tirs trop proches forcent à se rapatrier dans le cimetière voisin considéré plus sûr. Quelques rares habitants, toujours présents comme Yasmine, viennent y trouver un abri précaire.
Je dois me prostituer pour survivre. J'ai dû donner mes enfants à différentes personnes. Ma maison a brûlé. C'est le seul endroit qui me reste. Le danger est partout. Il n'y a nulle part où aller.
Les autres ont été forcés à fuir. Quand les gangs s'emparent d'un quartier, ils tuent, pillent et violent. Du coup, des réfugiés s'entassent dans les 10% de la capitale qui leur échappent toujours. Émile Charles s'est installé où il a pu. Il faut grimper une bonne demi-heure pour arriver à sa cahute sur les hauteurs d'un bidonville. Cet agriculteur d'une commune voisine a tout perdu il y a 4 mois.
Ils ont débarqué par surprise, brûlé toutes nos plantations. Ceux qui ne sont pas partis sont morts. Deux de mes frères ont été tués.
Il ne sait pas où se trouve le reste de sa famille, n'a aucune perspective. Il attend, il est loin d'être le seul. Dans des écoles, des églises, des ministères abandonnés, les camps de réfugiés improvisés sont partout en ville. L'un des camps date du tremblement de terre meurtrier de 2010. Les plus anciens pensaient que les baraques de tôle appartenaient au passé, mais les derniers arrivants qui ont fui les violences s'installent comme ils peuvent. Dorival Magdala n'en peut plus de cet endroit.
Ici, on vit une vie très misérable. On parle, on vit, mais en réalité, on est déjà mort. Je travaillais à l'usine toute proche, mais elle a fermé à cause de l'insécurité, donc je n'ai même plus de travail.
La chaleur est étouffante, l'eau manque, et avec la flambée des prix due à l'insécurité, la nourriture se fait rare. Pour repousser les gangs, des milices soutenues par des policiers contrôlent les allées et venues. À la tombée de la nuit, Yves Lalo, responsable de la fermeture d'une barrière du quartier de Canapé Vert, ne fait pas mystère du sort réservé aux bandits et aux simples suspects.
Ils ont toujours ce qu'ils méritent. Quand vous entendez l'expression « bois calé », ça commence ici à Canapé Vert. Les bandits qui sont venus pour nous tuer, pour piller, ils sont tous tués lorsqu'ils pénètrent ici dans ce quartier.
L'expression « bois calé » désigne des lynchages se terminant en bûcher. Selon l'ONU, ces groupes ont tué 500 personnes depuis mars. Ils prospèrent face à l'instabilité politique chronique. Aucune élection n'a eu lieu depuis 2016. Il n'y a plus de parlementaires. Le président a été assassiné en 2021. Le premier ministre a démissionné en 2024. Et c'est depuis un conseil présidentiel de transition qui assure la conduite des affaires sous une avalanche de critiques. Dans ce contexte, l'activiste Féguinze Ménard doute de la tenue des élections prévues début 2026.
Leur mission était d'instaurer la sécurité pour organiser des élections. Mais le temps passe et rien ne change. Il n'y aura pas d'élections. L'État est absent. Il ne se manifeste que pour prendre, sans rendre aucun service à la population.
L'État absent.
Féguinze préfère tout parier sur la prochaine génération avec son mouvement Soldat Haïti. C'est pour ça qu'il reste. Un jour, peut-être, les choses s'amélioreront.
Jean-Mathieu Albertini pour le reportage, merci beaucoup. Et surtout, à demain, on parlera pollution, insalubrité et violence. Deuxième rendez-vous donc de cette traversée d'Haïti. La suite dans Un jour dans le monde, c'est Sous les radars et Alice Moreno.
Et en ce mois de lutte contre le cancer du sein, nous entendrons la colère des Espagnols à Séville qui dénoncent les défaillances du système de dépistage.
La BO du monde et Cyril Sauvageau.
Ce soir en Égypte, faut-il mettre fin au cancer géant au pied des pyramides? La question est posée.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini. Les amis, il passe par la Turquie avec Kaltingen et Leila. Ça date de 2019 sur France Inter et d'Un jour dans le monde. On y retournera d'ailleurs en Turquie très vite.
Kaçların kara kara damam Leyla, Leyla goes little.
et Altingun. Quand l'actualité internationale se cache sous les radars, c'est Thalys Moreno cette semaine qui la met en lumière.
Nosotros como natos de pueblos originarios tenemos el deber, el derecho de ir.
En tant que peuple indigène, nous avons le droit et le devoir de nous défendre. C'est la revendication de Tomás dos Santos, il est habitant de la forêt amazonienne.
Et il s'inquiète pour ses frères, c'est ainsi qu'il les nomme, de la communauté autochtone Masco-Piro, un peuple non contacté, comprenez, qui refuse tout échange avec l'extérieur, considéré comme le plus important à ce jour, et désormais menacé par la déforestation. Les bulldozers détruisent quotidiennement l'épaisse forêt vierge et affectent la biodiversité nécessaire aux Masco-Piro qui vivent de la chasse, de la pêche ou de la cueillette. Dans notre société mondialisée qui ne jure que par les échanges commerciaux, la voix de ces peuples est largement effacée. C'est l'alerte donnée par l'ONG Survival International, spécialisée dans les droits des peuples autochtones, qui a procédé à un recensement inédit de ces peuples non contactés et parle d'un génocide silencieux. Si les gouvernements et les entreprises poursuivent l'exploitation des ressources à grande échelle sans protéger ces communautés, 65% d'entre elles disparaîtront au cours des 10 prochaines années, s'inquiète l'ONG. La déforestation, l'exploitation minière, mais aussi les activités de gangs criminels, trafiquants de drogue ou chercheurs d'or constituent autant de menaces pour ces populations qui ont leur propre culture, langue et territoire. L'exploitation à grande échelle de ressources se heurte ici violemment à la vie en autarcie que mènent ces peuples.
En Andalousie, les manifestants, qui étaient pour l'essentiel des manifestantes, ont dénoncé des failles dans le dépistage du cancer du sein.
Et on entend le cri de colère de ces milliers de femmes rassemblées hier devant le siège du gouvernement régional à Séville. Et vêtues de rose, en plein mois de lutte mondiale contre le cancer du sein, elles dénoncent un système de santé défaillant et réclament le départ du président de région, Juan Manuel Bonilla, à l'origine de leur colère, les manquements dans le système de dépistage du cancer. Après des mammographies réalisées ces dernières années dans différents hôpitaux publics, les dossiers de 2300 patientes ne leur ont pas été transmis, avec des conséquences potentiellement graves pour toutes les femmes dont les résultats d'examen présentaient des lésions douteuses. Pas de suivi, donc pas de traitement en cas de cellules cancéreuses détectées. Les raisons de cette défaillance majeure n'ont pas été détaillées par les autorités. Le président de région conservateur Bonilla, responsable des services de santé publique pour l'Andalousie, a présenté ses excuses. Insuffisant, répondent les manifestantes, qui appellent donc à sa démission.
C'est Recep Tayyip Erdogan qui parle, il présente un nouvel alphabet latin qu'il souhaite voir adopté par d'anciennes républiques soviétiques.
Le président turc, qui rêve d'étendre son influence bien au-delà de ses frontières, a présenté un nouvel alphabet latin de 34 lettres qu'il espère voir adopté par les Turcs, mais aussi dans les quatre pays membres de l'Organisation des États turciques, Kazakhstan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan et Kirghizistan. Il a fait cette annonce à l'occasion d'un sommet réunissant ces différents pays, brandissant notamment un recueil de légendes traditionnellement orales et communes à tous ces états turciques rédigés dans ce tout nouvel alphabet. L'objectif d'Erdogan, se débarrasser de l'alphabet cyrillique qui est encore employé à des degrés différents dans ces états, pour effacer encore davantage l'héritage soviétique et à terme tendre vers une union par la langue, la Turquie se positionnant bien sûr en chef de groupe. Les pays concernés se sont engagés à employer l'alphabet unifié et ses 34 lettres dans l'enseignement, les documents scientifiques, la recherche académique et les manuels scolaires.
Thalys Moreno sous les radars, merci beaucoup, à demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute Le Bruit qui fait le monde en tournant, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et la BO du monde ce soir est en Égypte, Cyril, où les concerts géants au pied des pyramides font de plus en plus débat face à la multiplication de ces événements aussi spectaculaires que controversés. Des archéologues égyptiens tirent la sonnette d'alarme.
Une plainte a même été déposée après le dernier concert donné devant les pyramides de Gizeh. Le spectacle du DJ d'origine italienne Anyama, qui a rassemblé 15 000 fans début octobre pour un show XXL dont il a le secret, lui qui avait déjà investi Las Vegas ou encore l'Atomium de Bruxelles. Plein plein les yeux, plein les oreilles, un spectacle à grand renfort de robots géants en 3D, de lasers et de techno grand public. Anyama a vu les choses en grand, trop grand peut-être. En tout cas, il a retenu les leçons du maître en la matière, Jean-Michel Jarre, qui avait fait sensation avec son concert du millénaire en l'an 2000 au pied de ces mêmes pyramides.
Alors Cyril, on sait bien la fascination qu'exercent depuis toujours les pyramides, l'envie de s'y produire en concert ne date pas d'hier.
Vous vous souvenez peut-être de cette photo légendaire du jazzman Louis Armstrong jouant de la trompette devant le Sphinx. Simple mise en scène, à l'époque début des années 60, ce n'est qu'une séance photo dans le cadre d'une visite touristique. Mais en 1979, le crooner Frank Sinatra est le premier artiste à donner un gala aux pyramides à l'invitation de la première dame d'Égypte, Gian El Sadat.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you?
D'autres artistes comme le groupe Grateful Dead vont suivre l'exemple. Le phénomène va surtout se développer dans les années 2000 et avec lui, la course au gigantisme. Après Jean-Michel Jarre, viendront Sting, Shakira, Mariah Carey, les rappeurs marseillais Dayam pour leurs 20 ans de carrière et plus récemment les Red Hot Chili Peppers ou encore les Black Eyed Peas en 2021.
Mamacita, qué bonita, mamacita.
Donc on a bien compris, Cyril, que tout ça pourrait ne pas durer. En tout cas, une procédure est en cours.
C'est un groupe d'archéologues et de représentants locaux, dont le gouverneur de Gizeh, qui ont lancé cette procédure, portée par une organisation appelée le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux. Les plaignants invoquent la défense du patrimoine archéologique. Ils pointent notamment le volume sonore, les vibrations qui risqueraient d'endommager la pierre. Il faut dire que ces événements ont connu un coup d'accélérateur ces dernières années et plusieurs concerts ont défrayé la chronique. En novembre dernier, un festival électro géant Circo Loco tourne au fiasco. Des milliers de faux billets, une sécurité défaillante, des mouvements de foule, de quoi alimenter la grogne qui monte en Égypte contre ces fêtes. Elles n'ont lieu que quelques soirs dans l'année, mais drainent énormément de touristes. Tout cela intervient au moment où l'Égypte tend à se refermer, à s'arc-bouter sur la défense de sa culture et de son patrimoine, et alors que doit être inauguré, dans quelques jours seulement, le tout nouveau musée égyptien du Caire, situé tout près des pyramides et dont les autorités égyptiennes veulent faire un symbole national.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup Cyril, vous reviendrez lundi prochain.